Sermon sur la tristesse du Saint-Esprit par Claude de Charenton. Ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Un des plus grands avantages dont les fidèles jouissent sous la lumière de l'Évangile et qui les élève bien près de la félicité des cieux est de pouvoir dire « Dieu est en nous » ou comme parle saint Paul, « Dieu produit en nous le vouloir et le parfaire selon son bon plaisir ». Quand Moïse voulut relever la gloire de ses Israélites sur tous les autres peuples du monde, il ne dit autre chose sinon « Dieu est près de nous ». Quelle est la nation si grande qui ait ses dieux près de soi, comme nous avons l'Éternel, notre Dieu, en toutes les choses sur lesquelles nous l'invoquons? Il veut dire que Dieu était près d'eux par les soins que sa providence en prenait, par les lois et par les oracles, par sa nuée et par son tabernacle, par l'eau du rocher, par la manne, par les types et par les promesses, et en un mot, par tout ce qu'il faisait dans l'ordre de cette pédagogie pour les disposer à recevoir un jour des plus grandes bénédictions. Quand le Fils de Dieu est descendu du ciel en terre, l'Église a vu augmenter sa gloire, car elle a pu dire non seulement « Dieu est près de nous », mais « Dieu est avec nous » selon la prophétie d'Ésaïe. « Voici, une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » C'est le grand mystère de piété que saint Paul prêche, Dieu manifesté en chair, et que saint Jean publie si hautement, « La parole a été faite chair et a habité entre nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme de l'unique issue du Père, plein de grâce et de vérité. » Dieu fut alors avec nous, par la communion d'une même nature, selon laquelle il conversa familièrement avec les hommes, exposé aux mêmes accidents et aux mêmes misères qu'eux, déployant néanmoins très souvent devant leurs yeux les miracles de sa puissance et leur donnant sans cesse les saintes leçons de sa bouche. Ce bonheur fut suivi d'un plus grand quand ce même Fils éternel voulut mourir pour notre salut, car alors on put dire avec une pleine confiance « Dieu est pour nous ». Si Dieu, dit saint Paul, est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Ce fut alors en effet que Dieu donna sa paix et son alliance à la terre, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde à soi et ne leur imputant point leurs péchés. Mais, quelque grand que soient ses avantages, si faut-il avouer qu'il manquait encore quelque chose au bonheur de l'Église, puisque ses désirs ne sauraient être bien remplis jusqu'à ce qu'elle puisse dire « Dieu est en nous ». C'est aussi, mes frères, cet heureux accroissement d'honneur et de bénédiction qu'elle a reçu après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, car lorsqu'à quelque égard elle a cessé de dire « Dieu est avec nous », ayant perdu sa vue et sa conversation familière, elle a commencé à devenir le temple du Saint-Esprit, et cette glorieuse personne que nous adorons à la divinité a commencé à habiter en nous et à y répandre ses consolations et les richesses éternelles de sa grâce, jusqu'à ce que nous obtenions un jour celle de sa gloire. C'est une vérité que saint Paul nous enseigne en bien des lieux de ses divines épîtres, mais qu'il relève fort hautement dans les paroles que je viens de lire et que j'ai choisies pour le sujet de cette action. Il est vrai que comme notre bonheur est grand, il veut aussi que notre devoir soit proportionné à notre bonheur. Un si glorieux hôte demande de nous des respects infinis, et si les droits de l'hospitalité sont inviolables à l'égard des hommes, qui quelquefois sont moins que nous, combien doivent-ils être sacrés à l'égard du Saint-Esprit, une personne adorable et divine, qui a daigné choisir sa demeure dans notre cœur pour y sceller les plus importantes promesses de notre salut? C'est à quoi aboutit l'exhortation contenue dans le texte que vous venez d'entendre. « Ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Saint Paul avait employé une partie de ce chapitre à nous proposer les plus importantes doctrines de la religion, savoir l'abaissement de Jésus-Christ et son élévation dans la gloire, les ordres qu'il a donnés pour établir le ministère évangélique et le but de ses grandes charges qui est l'édification du corps de Christ et la réunion des saints. Ensuite, il donne le reste de ses soins à la sanctification des mœurs. Le mensonge, la colère, le larcin, les discours sales et déshonnêtes, la malice et la médisance sont les vices particuliers contre lesquels il donne des préceptes, et parmi ces préceptes particuliers, il mêle celui-ci qui est général et qui comprend beaucoup de choses en peu de mots. Je veux dire de ne contrister point le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Comme vous voyez, mes frères, il y a trois parties considérables dans ces paroles. Celle qu'il faut examiner la première est une de nos plus chères espérances, le jour de notre rédemption. La seconde est la plus riche des grâces que Dieu nous fait. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu pour ce jour de notre rédemption. Et la dernière est la plus forte de nos obligations. Nous devons nous donner de garde de contrister le Saint-Esprit de Dieu. Quant au premier de ces points, le jour de notre rédemption et le jour de notre bienheureuse résurrection, et saint Paul s'en explique formellement de la sorte au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où il dit « Que nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, soupirons en nous-mêmes attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. » Que si vous me demandez pourquoi il emploie plutôt le terme de rédemption que celui de résurrection, qui d'ailleurs est si ordinaire dans le Nouveau Testament, il ne me sera pas bien difficile de vous satisfaire. Car premièrement, l'Écriture sainte, se servant assez souvent de cette expression pour représenter une délivrance considérable, comme au psaume 107, où il nous est parlé des rachetés de l'Éternel, de ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et au chapitre 63 d'Ésaïe, où il est dit que Dieu a racheté les Israélites par sa dilection, il est évident que saint Paul a eu raison de s'en servir pour exprimer fortement la plus grande de toutes nos délivrances, le grand objet de nos désirs et l'éternelle matière de notre reconnaissance. Mais il faut remarquer que quand ce terme se prend en ce sens, il emporte d'ordinaire deux choses. L'une, que la délivrance dont il s'agit se fait par un dernier effort de puissance et d'une manière éclatante et glorieuse, et l'autre, que c'est une délivrance entière et qui nous met au-dessus de tout danger. À cause de quoi saint Étienne, au chapitre 7 des Actes, dit que Moïse fut envoyé pour être prince et rédempteur par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson, et qu'il en tira hors d'Égypte les Israélites en faisant des signes et des miracles. Il l'appelle rédempteur parce que sa délivrance eut les deux qualités que je viens de dire. D'un côté, elle se fit avec main forte, comme parle l'Écriture, et de l'autre, elle fut si complète que la tyrannie des Égyptiens ne s'en put jamais relever. Et sur ce fondement, vous voyez déjà qu'il n'y a point d'œuvre qui mérite mieux le titre de rédemption que celle du rétablissement de notre chair, qui sera l'effet le plus illustre de la puissance infinie de Dieu. Effet qui est au-dessus de la force, non seulement de tous les hommes, mais même de tous les anges. Car il est vrai qu'un seul ange a pu détruire en une nuit 185 000 hommes de l'armée de Sanhérib, mais il est vrai aussi que tous les anges ensemble ne sauraient ressusciter un seul homme. C'est l'ouvrage du maître de la nature, de celui qui tient les clés de la vie et de la mort entre ses mains. Il n'y a que sa main et sa voix qui en puissent rompre les sceaux et le silence, et d'où vient que saint Paul ne fait point difficulté de rapporter avec en face la résurrection même du Seigneur Jésus, à l'efficace de la puissance de la force de Dieu, laquelle, dit-il, il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité des morts. De plus, notre dernière délivrance sera si parfaite qu'il ne se peut rien concevoir de plus accomplie puissance, puisque nous ne serons pas seulement remis en notre première vie, mais que l'état où nous serons élevés sera celui de l'immortalité. La mort, dit saint Paul, sera engloutie en victoire, c'est-à-dire que nous obtiendrons sur elle, par Jésus-Christ, une victoire qui l'engloutira. Les conquérants peuvent obtenir deux sortes de victoires sur leurs ennemis. l'une que l'on peut appeler une victoire particulière, qui fait fuir l'ennemi, qui lui ravit une partie de ses forces, mais qui ne l'empêche pas de se rétablir, et de revenir encore une fois disputer le champ de bataille, et mettre le vainqueur au hasard de perdre ce qu'il a gagné. L'autre que l'on peut nommer une victoire entière, qui éteint la puissance ennemie, et si absolument qu'elle n'en peut jamais revenir. Il y a de même deux sortes de résurrection. L'une comme celle de Lazare, où la mort fut vaincue, mais où elle ne fut pas engloutie, puisque Lazare mourut encore une fois. L'autre qui sera la nôtre au dernier jour, où la mort sera non seulement vaincue, mais engloutie en victoire, c'est-à-dire abattue et exterminée pour jamais. Il faut donc dire de la première que c'est une simple résurrection, mais pour parler plus fortement et plus dignement de la seconde, il faut dire que c'est une rédemption. J'ajouterai encore quelque chose de plus. C'est que saint Paul, employant ce terme, a eu égard à la rédemption que Jésus-Christ a faite de nous par le prix infini de son sang. Car bien que ce prix ait été pleinement payé au jour de sa mort, si est-ce que deux choses sont certaines ? L'une, que notre résurrection ne se fera qu'en vertu de ce prix et par l'efficacité immortelle de ce sang qui nous a acquis la vie et la félicité. L'autre, que la rédemption de la croix et la résurrection dernière ne sont pas deux ouvrages différents, ce n'en est qu'un seul considéré à divers égards et en divers temps. La rédemption de la croix étant notre résurrection de droit et la résurrection de notre rédemption de fait. Un seul et même salut commencé et achevé, ce qui rend l'expression de saint Paul fort juste et sa pensée fort intelligible. Mais il est bon de considérer aussi qu'il dit le jour de la rédemption, et non pas seulement la rédemption, car il me semble que ce terme de jour fournit à notre esprit beaucoup de saintes méditations. La première est un avantage de la grâce sur la nature et du second monde sur le premier. Quand Dieu créa l'univers, il fit la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Notre temps roule dans la succession de ces deux parties qui s'entresuivent, et le premier homme qui fut produit dans le beau jour de l'innocence et de la félicité tomba bientôt après dans la triste nuit de son crime et de sa misère. Mais il n'en sera pas de même dans la seconde création, où il n'y aura qu'un jour perpétuel de vie sans mort, de sainteté sans péché, de gloire sans ignominie, de joie sans douleur et de béatitude sans misère. Je considère encore ce jour par opposition à deux autres jours solennels qui sont assez célèbres dans l'Écriture. L'un est le jour du Sinaï, l'autre est celui de la Pentecôte et celui-ci est le jour de la rédemption. L'un fut la journée du Père, où cette première personne parut en toute sa majesté, la montagne était couverte de son feu, les éclairs étincelants sortaient de ses yeux et les nuées se formaient du souffle de ses narines. Sa voix retentissait du milieu des flammes et toute l'armée d'Israël prosternée dans la plaine ne pouvait soutenir ses rayons. La seconde fut la journée du Saint-Esprit, où cette troisième personne parut de même en sa gloire. Il se fit soudainement un son du ciel comme d'un vent qui souffle avec véhémence, lequel remplit toute la maison où les apôtres étaient assis, et des langues comme de feu leur apparurent qui se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langages étrangers selon que l'Esprit les faisait parler. La troisième sera la journée de Jésus-Christ, où ce Fils de Dieu, venant des nuées du ciel avec la gloire de son Père et la puissance de ses anges, paraîtra dans l'air sur son trône, et appelant ses élus des quatre vents avec voix d'archange, il les retirera de la poudre, et il les élèvera à la gloire de son royaume. Le premier de ces jours fut celui de la publication de la loi, et le second fut celui de la publication de la grâce, et le troisième sera celui de la publication de la gloire. En troisième lieu, nous devons regarder ce jour, par opposition, à tant de nuits par où nous aurons passé, et dont nous sortirons heureusement pour entrer dans ce glorieux jour. La nuit de nos péchés et des désordres de notre conscience, la nuit de la colère de Dieu et de la crainte de l'enfer, la nuit des misères de la nature, la nuit des afflictions de l'Église, la grande nuit de la mort où nos corps auront si longtemps dormi. Ce sont les nuits que nous pourrons regarder derrière nous en nous éveillant et affranchis de l'horreur de leurs ténèbres, nous nous réjouirons en la lumière de ce beau jour. En quatrième lieu, nous pouvons examiner ce jour de notre rédemption par opposition à ce qu'il sera lui-même à l'égard des méchants, car ce sera le jour de leur désolation et de leur dernière ruine, où ils diront aux montagnes « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui est-ce qui pourrait subsister ?» Mais à notre égard, ce sera un jour de triomphe et de joie, le jour du rafraîchissement et, en un mot, le jour de notre rédemption. Enfin, il faut prendre ce jour de la rédemption à notre sens, à savoir pour le temps où notre rédemption sera mise en plein jour. Car il est certain que jusqu'alors, elle sera demeurée comme cachée et couverte d'un voile. Quand le Fils de Dieu fit cette rédemption, nous pouvons dire qu'il la fit plutôt en une nuit qu'en un jour, car il la fit dans les ombres de son anéantissement et de la mort. Les actes s'en passèrent entre le Père éternel et lui, sans que les hommes en vissent rien. Et nous pouvons rapporter à ce secret ces mystérieuses ténèbres qui enveloppèrent sa croix depuis 6 heures jusqu'à 9. Quand le Père l'avait résolu, il l'avait résolu en lui-même, dans l'obscurité de ses décrets. Quand il en avait dressé le plan et qu'il en avait fait les préparatifs en la loi, il avait couvert son dessein de l'ombre des cérémonies. Et quand la prédication des apôtres l'a manifestée au monde, il est vrai qu'on a pu dire ce que dit saint Paul dans sa seconde épître à Timothée, que la vie et l'immortalité ont été mises en lumière par l'Évangile. Mais c'est en la lumière de la foi, et non en celle des sens, en la lumière de la promesse et de l'espérance, et non en celle de l'accomplissement et de la possession. Et il nous reste toujours à dire avec saint Jean et avec saint Paul, ce que nous sommes n'est point encore apparu, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Dieu, qui est notre vie, apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui en la gloire. Ce sera donc alors vraiment le jour de notre rédemption. Les méchants et les bons la verront également, car elle sera mise à l'égard de tous dans une pleine évidence, sans qu'il n'y ait ni voile des décrets de Dieu, ni voile des opprobres de Christ, ni voile de la loi, ni voile des afflictions de l'Église, ni voile de l'aveuglement humain, ni voile de la mort qui nous en puisse dérober la connaissance. Nos corps sortiront alors du sépulcre, portant sur eux l'impression et la teinture du sang de Christ et les caractères de son efficace. Réjouissez-vous donc, chair et sang, vous n'êtes qu'un petit monceau de poudre vivante, une poignée de terre pétrie avec de l'eau et mise en couleur, mais vous serez un jour participant de l'incorruption et de l'immortalité des cieux, et afin que vous n'en doutiez pas, Dieu vous a donné dès maintenant son sceau sacré. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. C'est la seconde partie que nous avons à examiner. Et pour en acquitter avec quelques distinctions, il faut présupposer une chose que vous comprenez de vous-même facilement, à savoir que c'est ici une expression métaphorique que saint Paul emploie de l'usage ordinaire des hommes et qui ont accoutumé d'imprimer leurs choses sur des sujets matériels. Il veut donc dire, premièrement, que Dieu nous a marqués par son Saint-Esprit pour nous distinguer d'avec le reste des hommes, car c'est à cela particulièrement qu'on emploie des sceaux ou des cachets pour mettre de la différence entre les choses et pour en rendre le discernement plus facile. J'avoue que Dieu nous a marqués éternellement dans son livre de vie, et que c'est en vertu de cette marque qu'il nous connaît et que nous recevons ses bénédictions. Le fondement de Dieu, dit saint Paul, demeure ferme ayant ce sceau, Dieu connaît ceux qui sont les siens. Mais cette marque, étant en lui-même, dans le secret de son élection, il a voulu nous en donner une autre en nous, qui nous sépare des enfants du siècle. Et comme nous ne marquons d'ordinaire de notre sceau que les choses qui sont à nous, l'apôtre a voulu par cette expression nous dire que nous sommes à Dieu, et que nous sommes son héritage, son bien, son domaine, ou comme il parle lui-même, son joyau le plus précieux. Ce qui nous élève à méditer la tendresse de son amour infini envers nous, car un homme n'aime rien tant que ce qui est à lui. Les palais des rois ne le touchent pas tant que sa petite maison. Il voit le reste des choses d'un œil assez indifférent. Mais son bien, quelque misérable qu'il soit, lui donne de la joie. Quand donc nous apprenons que Dieu nous a marqués comme un bien qui lui appartient, cela veut dire qu'il nous aime d'un amour ineffable, plus que toutes les choses du monde, et que le ciel et la terre ne lui sont rien au prix de son Église, quelque basse et quelque méprisée qu'elle soit. Mais l'apôtre ne dit pas que nous avons été marqués, il dit que nous avons été scellés. Ce terme emporte beaucoup plus que l'autre, car tout sceau est bien une marque, mais toute marque n'est pas un sceau. Les sceaux sont des marques qui portent les armes de celui à qui ils sont, et bien souvent ils emportent l'image, comme sont les sceaux des princes. Or, vous savez que le principal effet du Saint-Esprit est de graver en nos cœurs ces trois vertus, la foi, la charité, l'espérance, que je puis fort raisonnablement appeler les armes de Dieu, c'est-à-dire les enseignes de son alliance avec nous, et d'y imprimer son image qui consiste en la justice, en la paix et en la sainteté. Comme les sceaux des rois sont sacrés et inviolables, il en est de même de ce sceau divin, qui non seulement est auguste en lui-même et digne de nos plus profonds respects, mais qui de plus rend nos personnes sacrées et nos consciences inviolables à tous les efforts des tentations. Comme nous imprimons nos sceaux non dans l'air ou dans l'eau, mais dans des matières capables d'en recevoir et d'en garder les caractères, de même ce Saint-Esprit de Dieu ne se donne qu'aux âmes vraiment fidèles, propres à en recevoir et en conserver l'impression. Comme la matière sur laquelle l'on applique le sceau ne contribue rien à la formation des caractères qu'elle reçoit, elle ne fait qu'obéir et recevoir l'impression de la manière que le sceau la communique, notre cœur aussi n'agit point et n'apporte rien que son obéissance pour recevoir la sainte image de Dieu dont les traits sont originairement du Saint-Esprit et dépendent absolument de son efficace. Comme les sceaux rendent authentiques les volontés des rois, confirment la sincérité de leurs paroles et nous assurent l'effet de ce qu'ils nous ont promis, de même ce sceau céleste établit fortement à notre égard la déclaration de la miséricorde divine et la rend solennelle. Il confirme à notre foi les doctrines et les mystères de l'Évangile et il assure à notre espérance l'accomplissement des promesses que la nouvelle alliance nous fait. J'y remarque néanmoins trois différences considérables. L'une que les sceaux n'ont en eux-mêmes que l'image des rois et que ce qu'ils en communiquent à la matière n'est qu'une seconde image moins parfaite que la première parce qu'elle s'éloigne plus de l'original au lieu que le Saint-Esprit a la nature de l'essence même de Dieu, de sorte que son empreinte en nos cœurs nous donne une première image qui, s'approchant immédiatement de son original, en est par conséquent plus parfaite. La seconde est que nos sceaux ne changent pas les matières, qu'ils n'ont pas la vertu de les rendre propres à recevoir l'impression. Ils supposent qu'elles en sont capables, et selon qu'ils les trouvent, ils opèrent ou n'opèrent pas sur elles. Mais ce glorieux sceau de Dieu fait lui-même sa matière, et d'impropre qu'elle était naturellement, il la rend propre et flexible, faisant d'un cœur de pierre un cœur de chair, comme parle l'Écriture sainte. La troisième est que nos sceaux ne demeurent pas toujours sur la matière. On les éloigne après la première empreinte, et de là vient que les figures qu'ils ont données ne durent pas, elles vieillissent et s'effacent insensiblement, de sorte qu'enfin vous n'en reconnaissez plus les traits. Mais le Saint-Esprit demeure toujours sur nos cœurs, ce qui fait que l'image qu'il nous communique ne saurait jamais périr. Cependant, il faut remarquer que saint Paul ne dit pas simplement que nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu, mais il dit que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire que ce sceau nous est donné à l'égard de la résurrection bienheureuse. Je ne vous dirai point qu'au dernier jour, ce Saint-Esprit sera la marque à laquelle le Seigneur Jésus, notre grand juge, distinguera les uns d'avec les autres, les bons d'avec les méchants, relevant cela du tombeau en résurrection de vie et les autres en résurrection de condamnation. Je ne vous dirai point aussi que le Saint-Esprit est celui qui forme en nous les désirs et les espérances de cette rédemption future, nos âmes n'ayant aucun bon mouvement dont il ne soit l'auteur. Ces deux choses sont vraies et certaines, mais je ne pense pas que la principale intention de saint Paul en ce lieu soit de nous les enseigner. Il veut dire, à mon avis, que l'assurance que nous avons de notre résurrection et l'attente où nous sommes de ce grand jour est fondée sur ce Saint-Esprit qui nous en est un sceau ou qui est, comme il parle ailleurs, un gage de notre héritage. En effet, tout ce qui peut établir inviolablement la certitude de cette espérance se trouve dans le Saint-Esprit. Il y a premièrement trop de gloire et trop de majesté en lui pour nous persuader qu'il laisse éternellement dans la poudre nos corps qui ont eu l'honneur d'être ses temples. C'est le raisonnement de saint Paul au chapitre 8 des Romains. « Si l'Esprit, dit-il, de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts ressuscitera aussi vos corps mortels à cause de son Esprit habitant en vous. » D'ailleurs, cet Esprit confirme dans nos cœurs toutes les choses desquelles dépendent l'espérance de notre résurrection. Elle dépend de savoir au vrai que Jésus-Christ est mort pour nous, et cet Esprit nous en est un témoin irréprochable. Elle dépend de savoir que Jésus, en mourant, a vaincu la mort et est glorieusement ressuscité pour nous rendre la vie que nous avions perdue, et c'est une vérité que le Saint-Esprit nous assure, puisqu'il est l'Esprit de Christ qui émane de la vertu de sa résurrection. Elle dépend de savoir que Jésus-Christ est au ciel, régnant à la dextre du Père, et que la toute-puissance lui est donnée afin qu'il donne vie éternelle à ses fidèles, et cet Esprit témoigne hautement cette gloire, puisqu'il en est le fruit et l'effet. Le Saint-Esprit, est-il dit dans saint Jean, n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Je vous enverrai le Consolateur, savoir l'Esprit de vérité, qui procède de mon Père et qui témoignera de moi. Ce que saint Pierre explique fort bien au deuxième chapitre des Actes en ces termes, après que Jésus a été élevé par la dextre de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez, comme s'il disait que cette belle effusion du Saint-Esprit sur l'Église est un effet et par conséquent une marque de la gloire de Jésus-Christ. Elle dépend de la vérité de notre adoption, et vous savez que saint Paul appelle cet Esprit l'Esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père » et qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfin, je dis que cet Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption, parce qu'il ne faut que jeter les yeux sur lui et le sentir en nos cœurs pour repousser tous les doutes qui s'élèvent contre l'espérance de notre résurrection. Si nous craignons nos péchés qui sont la vraie cause de notre mort, il nous assure de leur rémission. Le corps est bien mort, dit saint Paul, à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si nous craignons la colère de Dieu, cet Esprit nous est un gage de sa réconciliation et de son amour. La dilection de Dieu, dit l'apôtre, est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous ne croyons pas que notre chair soit capable de recevoir l'immortalité, cette vaine difficulté n'est-elle pas dissipée à la vue de cet Esprit? Puisque déjà l'incorruptible s'est joint avec le corruptible et la plus pure lumière du ciel avec les ténèbres de notre terre. Si la philosophie nous dit que les lois de la nature ne reconnaissent point de résurrection, cet Esprit dont nous avons déjà senti la vertu répondra que ses opérations ne sont point soumises aux lois de la nature, et ses grands effets qu'il a produits en notre régénération ne sont pas moindres que ceux que nous attendons en notre résurrection. S'il a pu tirer l'âme des enfers, ne pourra-t-il pas tirer les corps du sépulcre? Et faut-il une plus grande puissance pour délier la chair des liens de la mort qu'il en a fallu pour délier l'esprit des chaînes de la corruption et du péché? Voilà donc de quelle manière nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. Mais il ne faut pas quitter cette seconde partie sans en tirer deux importantes doctrines qui nous y sont, ce me semble, très clairement enseignées. L'une est la persévérance des saints et l'autre la connaissance que les fidèles ont de leur propre état et, par conséquent, la certitude qu'ils ont de leur propre salut. À l'égard de la première, elle est évidente, car puisque Dieu donne son Saint-Esprit à ses enfants pour les sceller jusqu'au jour de la rédemption, il est clair que les soins de sa providence vont jusqu'à la fin et qu'il ne retire point sa bonne main de dessus eux, qu'il ne les ait conduits jusqu'à la possession de sa gloire. Et quant à la seconde, il est certain que le Saint-Esprit nous étant donné comme un sceau, pour nous confirmer dans l'espérance de la résurrection, il ne pourrait produire cet effet si nous ne sentions ces mouvements en nous-mêmes et par conséquent, si nous ne pouvions distinguer et notre élection et notre vocation. En effet, ce serait une chose bien étrange que Dieu, qui a voulu former en nous une vie spirituelle plus noble et plus élevée que la raisonnable, lui eût néanmoins ravi les droits qu'il a accordés à la vie sensitive et qu'il l'eût mise à cet égard dans le degré de la vie végétative, car les animaux mêmes qui vivent savent qu'ils vivent, et il n'y a que les plantes qui vivent sans savoir qu'elles vivent. Serait-il bien possible que nous vécussions de la vie de la grâce comme des arbres et des plantes, sans avoir aucune connaissance de notre état? Non, mes frères, assurément l'Esprit de Dieu se fait sentir par ses opérations. Mais, dira-t-on, par quelle lumière pouvons-nous connaître ce Saint-Esprit? Par la lumière même du Saint-Esprit, et c'est une erreur de croire qu'il se fasse là un cercle vicieux, car il est certain que toutes les puissances qui sont capables de ce qu'on appelle réflexion ne se connaissent que par elles-mêmes. Comment connais-je que j'ai un entendement? Par mon entendement même. Comment sais-je que j'ai une lumière de raison? Par la lumière même de ma raison. Il n'y a point en cela de cercle vicieux. Il n'y en a point aussi à dire que je connais que j'ai le Saint-Esprit par la lumière même du Saint-Esprit, car ce qui est lumière à l'égard des autres objets, et dans l'acte qu'on appelle direct, devient objet à l'égard de soi-même, dans l'acte qu'on appelle de réflexion. Nous pouvons donc connaître que nous avons le Saint-Esprit, et par cette connaissance, être assurés de notre salut. Il est vrai que nous ne devons jamais abuser de cette certitude, ni la convertir en une profane sécurité. Au contraire, plus nous sommes assurés de l'habitation du Saint-Esprit en nous, plus nous devons prendre soin de nous conserver un avantage si précieux. Et c'est pour cela que saint Paul ne veut pas que nous ne fassions rien qui puisse le contrister. « Ne contristez point, dit-il, le Saint-Esprit de Dieu. » Vous voyez bien que c'est la troisième partie de cette action. Et d'abord, il paraît assez étrange que saint Paul ne suivent pas la métaphore qui sert de fondement à son discours et qu'ils disent « Ne contristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés », au lieu de dire, selon les règles du langage humain, « Ne rompez ou n'effacez pas ce sceau de Dieu ». C'est, mes frères, qu'il ne veut pas que nous prenions ce Saint-Esprit de Dieu pour une simple impression ou pour une grâce créée en nous, mais pour une personne divine, pour la troisième personne que nous adorons en la divinité. Et pour cela, il se sert d'un terme qui semble n'avoir pas beaucoup de rapport avec celui de scellé et qui ne s'attribue d'ordinaire qu'aux personnes. « Ne le contristez point, » dit-il. Ne pensez pas néanmoins que ce terme se doive entendre proprement et à la lettre, comme si la personne même du Saint-Esprit recevait de la tristesse. Non, la nature divine est incapable de nos passions. Elle est au-dessus de nos joies et de nos tristesses, et comme ceux qui sont sur le mont Olympe voient les nuées s'assembler sous leurs pieds, tomber la grêle et la foudre éclater dans la plaine, pendant qu'ils jouissent de la pure lumière du soleil, de même l'essence divine voit passer les troubles et les agitations des créatures, et demeure toujours néanmoins dans sa paix et sa tranquillité. C'est donc un terme emprunté des affections humaines, et employé pour représenter ce qui arrive à notre égard aux opérations du Saint-Esprit dans nos cœurs, car lorsque Dieu fait ce que l'homme fait, quand il aime, ou quand il hait, ou quand il est touché de miséricorde, ou quand il est saisi de colère, vous savez que l'Écriture lui attribue ou l'amour, ou la haine, ou la colère, ou la miséricorde. Quand donc le Saint-Esprit fait en nous ce que la nature y fait lorsque nous sommes saisis de tristesse, cette même Écriture dit que le Saint-Esprit est contristé. Mais comment se peut-il faire, direz-vous, que cet Esprit qui nous est donné pour la joie et pour la consolation du cœur souffre lui-même de la tristesse de quelque manière qu'on le prenne? Mes frères, j'avoue qu'il n'est pas bien facile de vous l'expliquer, et quand je l'aurai bien compris, je ne sais si je serai capable de le bien dire. J'oserai donc vous demander ici un redoublement d'attention, pendant que je ferai de mon côté un effort de méditation pour sonder les profondeurs de notre péché, car le cœur de l'homme a ses mystères comme Dieu les siens. Et pour commencer cet éclaircissement, il faut d'abord remarquer qu'il y a sur ce sujet quatre différentes expressions qui se trouvent dans l'Écriture sainte. La première est « éteindre le Saint-Esprit ». La seconde, « résister au Saint-Esprit ». La troisième, « pécher contre le Saint-Esprit » ou, comme parle saint Paul, « outrager le Saint-Esprit ». Et la quatrième, « contrister le Saint-Esprit ». Après cette remarque, il faut distinguer cinq sortes d'opérations du Saint-Esprit que nous appellerons, pour une plus facile intelligente, cinq sortes d'esprits. Il y en a un qui consiste en des dons extraordinaires, tels qu'étaient ceux qui accompagnaient la première prédication de l'Évangile, comme le don de faire des miracles, celui de parler des langages étrangers, celui d'interpréter ces langages et celui de prophétiser. Le second esprit est celui qui reluit dans la doctrine évangélique et surtout dans l'Écriture sainte, car ce divin livre est un trône où le Saint-Esprit règne et d'où partent mille rayons, et il n'est pas possible de l'ouvrir en quelque endroit, que ce soit sans être ébloui de sa lumière. Le troisième est un esprit qui prépare les hommes à la communion de Jésus-Christ, formant en eux toutes les dispositions nécessaires pour entrer dans son alliance, sans leur donner toutefois la vraie forme de la régénération. Le quatrième est celui qui nous met actuellement dans la communion du Sauveur, changeant absolument nos cœurs et y établissant le règne de Dieu et de son Christ. Le cinquième, enfin, est un esprit qui émane de la communion du Seigneur Jésus et qui ne se communique qu'à ceux qui sont déjà vrais membres de son corps mystique. Sur ce fondement, je dis que quand un homme qui a reçu ce premier esprit, qui consiste en des dons extraordinaires, vient à le négliger ou à le mépriser, étant emporté par les occupations ou par les objets du monde, l'Écriture appelle ce crime « éteindre le Saint-Esprit ». Et il paraît assez que c'est le sens de saint Paul en ses paroles du chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens « N'éteignez point l'Esprit », car il ajoute immédiatement après, par forme d'explication, « ne méprisez point les prophéties ». Le terme même « d'éteindre » est fort juste sur ce sujet, puisque cet esprit ne consiste à proprement parler qu'en lumière, en don de prophétie, en don de langue ou en don d'interprétation. Je dis en second lieu que quand on repousse par incrédulité et par endurcissement la parole de l'Évangile qui nous appelle à la foi, c'est, au style de l'Écriture sainte, résister au Saint-Esprit, parce que cet esprit qui agit en la prédication extérieure pousse et sollicite les hommes à la conversion. Et c'est en ce sens que saint Étienne, au chapitre 7 du livre des Actes, après avoir fait voir aux Juifs que tout le ministère des prophètes conduisait à Christ, et sentant bien d'ailleurs qu'ils étaient encore obstinés contre la prédication claire de l'Évangile, ayant été traîtres et meurtriers du Seigneur Jésus, il leur dit « Gens de col roide et incirconcis de cœur, vous résistez toujours au Saint-Esprit. » En troisième lieu, je dis que quand un homme a reçu cet esprit qui dispose intérieurement l'âme à entrer dans la communion du Sauveur, et pour parler le langage de saint Paul, quand il a été une fois illuminé, qu'il a goûté le don céleste, qu'il a été fait participant du Saint-Esprit et qu'il a goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, en un mot, quand il a été conduit jusqu'à la dernière préparation pour recevoir la forme de la vraie foi, s'il arrive par l'effort de son vice ou par la violence de la tentation qu'il renonce du cœur à Jésus-Christ et qu'il dise résolument en lui-même « Je ne veux point de son ciel ni de son salut, puisqu'il m'en coûterait le repos, les biens et les plaisirs de ma vie. Ce crime s'appelle dans l'Écriture sainte « péché contre le Saint-Esprit » ou, si vous voulez, « outrager l'Esprit de grâce », comme parle saint Paul au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Et c'est ce grand crime capital pour lequel il n'y a point de pardon et dont il n'est pas possible de revenir par la repentance, comme le même apôtre l'enseigne au chapitre 6 de la même Épître. Je dis en quatrième lieu qu'à l'égard de cet esprit qui nous met actuellement à la communion du Seigneur Jésus, il n'y a point d'explication dans l'Écriture qui marque aucune faute qu'on puisse commettre contre lui, et la raison en est assez évidente, c'est parce que cet esprit nous est donné en telle sorte qu'il remporte une pleine victoire sur nous et qu'il demeure maître absolu de notre cœur. C'est un esprit qui amène toutes nos pensées prisonnières à l'obéissance de Christ. C'est l'excellente grandeur de la puissance de Dieu envers nous qui croyons, selon l'efficace de la puissance de sa force, dit saint Paul. C'est un esprit qui ne peut manquer de triompher de nous, puisqu'il engloutit toutes les résistances de l'âme pour y établir le règne de notre Sauveur. Mais enfin, je dis que quand nous sommes une fois entrés dans l'alliance de Jésus-Christ, et que nous avons reçu ce cinquième esprit qui émane de la communion et qu'il ne donne qu'à ses vrais fidèles, il y a de certaines fautes que nous pouvons commettre, et même des péchés énormes où nous pouvons tomber, que l'Écriture sainte appelle d'un terme particulier la tristesse du Saint-Esprit. Examinons de plus près ce que cela peut être. L'Esprit qui procède de la communion du Sauveur nous est donné pour quatre choses. Pour la plénitude de la foi, pour la persévérance, pour la sanctification et pour la consolation. Je dis premièrement pour la plénitude de la foi, car je distingue entre la foi et la plénitude comme on distingue entre la vie et la perfection de la vie. Un enfant vit, un malade vit, mais une personne qui est dans l'âge de la vigueur et dans une parfaite santé ne vit pas seulement, mais il vit avec embonpoint, la nature faisant librement toutes ses fonctions et toutes ses opérations. De même, une personne ignorante et infirme que Dieu aura honorée de sa vocation sera fidèle, mais elle n'aura ni cette étendue de lumière, ni cette distinction de connaissance, ni cette fermeté de confiance qui se trouve dans ce que saint Paul appelle « parfait », ce que je nomme la plénitude de la foi. Or, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui fait en nous cette perfection, car Jésus est notre docteur et notre prophète qui enseigne intérieurement ses fidèles. Secondement, il nous donne son Saint-Esprit pour nous faire persévérer, car il nous a reçus en sa garde, et la volonté du Père qu'il a envoyé est qu'il ne perde rien de tout ce qu'il lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour, comme il le déclara lui-même au chapitre 6 de saint Jean. En troisième lieu, c'est son Esprit qui nous sanctifie et qui forme en nous les habitudes de la vertu, afin que nous portions les fruits de justice que notre vocation demande. « Demeurez en moi et moi en vous », disait-il à ses disciples. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure au cep, ni vous aussi semblablement si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous en êtes les sarments. Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Enfin, son esprit nous est donné pour la joie et pour la paix de nos âmes, car c'est de la communion de notre Rédempteur que dépendent ces consolations ineffables dont les fidèles jouissent. « Je vous laisse ma paix, disait-il, je vous donne ma paix et ne vous la donne point comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit point troublé et ne soit point craintif. Et parce qu'il nous donne cette paix par le moyen de son esprit est appelé le Consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. » Saint Paul embrasse ces quatre choses dans ce beau passage de la première aux Corinthiens. « Christ vous a été fait de Dieu sagesse et justice, et sanctification et rédemption, car la sagesse et la justice sont ce que nous appelons la plénitude de la foi et la consolation du cœur. La sanctification y est formellement énoncée, et la rédemption emporte la persévérance jusqu'au dernier jour. » Cela étant posé, mes frères, il ne nous sera pas maintenant bien difficile de trouver ce que c'est que contrister le Saint-Esprit. Voyez ce que produit d'ordinaire la tristesse quand elle nous accable. Elle fait que les esprits se retirent au cœur, et que la nature, abandonnant tous les dehors, se resserre dans ses sources et ne fait plus ses fonctions ordinaires. Il en est ici de même. Il arrive quelquefois qu'un fidèle tombe dans une si profonde négligence des mystères de son salut qu'à peine y donne-t-il un des moments de son loisir. Les objets du monde occupent tout son esprit et tiennent toutes ses affections envoûtées. Les doctrines de la grâce lui donnent du dégoût, les difficultés qu'elles ont le rebutent. Il se forme contre elle des doutes dans son âme qui le sollicitent de regarder l'Évangile comme un songe et son salut comme une espérance frivole. Alors, il ne faut pas douter que cet esprit de Christ, qui lui a été donné pour la plénitude de sa foi, ne se retire en lui-même et que, demeurant comme caché dans le fond de son cœur, il n'abandonne ses opérations ordinaires sur l'entendement, lequel, n'étant plus aidé de ses vives lumières comme il l'était auparavant, se laisse misérablement séduire par les tentations de la chair et du sang. Il arrivera quelquefois que, Dieu nous visitant, selon la sagesse de sa providence, de quelque épreuve un peu rude, la nature qui se verra pressée d'un cordeau d'affliction qu'elle aura peine à supporter, s'irritera contre la grâce, et en soulevant toute la force de ses passions, la tendresse, l'espérance, la crainte, la douleur, l'amour de la vie et l'horreur de la mort, elle en fera une tumultueuse armée qui s'en ira attaquer la foi et la profession évangélique que nous avons embrassée. La tendresse gémira, l'espérance pleurera ses pertes, la crainte ouvrira des abîmes sous vos pieds, la douleur criera, l'amour de la vie vous arrêtera pour n'aller pas plus avant, et l'horreur de la mort vous fera reculer en arrière. Alors, il ne faut pas douter que l'Esprit de Christ qui vous est donné pour vous faire persévérer, cet Esprit qui vous donnait auparavant un courage intrépide, qui vous faisait dire « Qui nous séparera de la direction de Christ ? Sera-ce oppression, ou angoisse, ou persécution, ou famine, ou péril, ou épée ? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il ne faut pas douter, dis-je, que cet Esprit ne se retire comme au fond de votre âme et qu'il n'abandonne les dehors de la piété qui ensuite sont emportés par la violence de la tentation. Il arrivera quelquefois qu'un homme de bien qui aura passé des jours assez innocemment pour être content de sa propre vertu tombera dans des occasions malheureuses où, soit par la force des objets, soit par quelque autre principe, il verra tout d'un coup soulever tous les restes de sa corruption, toutes ces vieilles infirmités qui feront un si terrible effort qu'ils inonderont, par manière de dire, toute sa sainteté, et il se plongera dans des crimes étranges, et il les entassera l'un sur l'autre comme s'il était le plus abominable de tous les hommes. Alors, il ne faut pas douter que cet esprit de Christ, qui lui avait été donné pour la sanctification de son cœur, ne s'enfuit, s'il m'est permis de dire, et ne se resserre en soi-même, se tenant comme caché dans les premières sources de la piété, sans se produire au dehors. Et soit que l'une de ces choses que je viens de vous représenter arrive, soit qu'elles arrivent toutes trois ensemble, comme il se fait quelquefois, il ne faut pas douter que cet esprit qui nous était donné pour verser mille consolations et mille joies dans nos âmes ne suspende ses influences et ne laisse la conscience dans le plus lamentable état qu'on se puisse imaginer. Voilà, mes frères, à mon avis, ce que c'est que contrister le Saint-Esprit. C'est le repousser par les ténèbres et par les défiances de la chair et du sang, lorsqu'il travaille à étendre nos lumières et à distinguer nos connaissances. C'est le combattre par l'amour de nous-mêmes et par nos intérêts mondains, lorsqu'il nous inspire le zèle et la fermeté en la possession de l'Évangile. C'est s'élever contre lui par la sédition des passions, lorsqu'il agit pour notre sanctification et qu'il est prêt à tracer dans nos âmes l'image de la justice de Dieu. C'est enfin l'obliger par les débauches de notre conduite à nous ôter la paix de la conscience et à nous laisser dévorer par nos inquiétudes naturelles. J'avoue que c'est un crime où le seul fidèle peut tomber, car éteindre le Saint-Esprit est un péché commun aux bons et aux méchants, les uns et les autres pouvant recevoir les dons extraordinaires. Résister au Saint-Esprit est le péché de tous les incrédules absolument. Pécher contre le Saint-Esprit et le crime où ne peuvent tomber que ceux qui ont reçu ce qu'on appelle la foi temporaire. Mais contrister le Saint-Esprit ne peut être que le péché d'un homme vraiment régénéré. Apprenez néanmoins que c'est en même temps le plus grand des malheurs qui puissent arriver aux fidèles, et par conséquent que l'apôtre ne pouvait nous faire une plus importante exhortation que celle-ci. Ne contristez point le Saint-Esprit. Pour vous le faire connaître, écoutez attentivement quelques observations qu'il est nécessaire que je vous fasse. La première est qu'il ne se peut rien concevoir de plus effroyable que l'état d'un homme lorsqu'il est dans ce malheur, puisqu'il n'a rien qui le puisse distinguer, ni à nos yeux, ni au sien même, d'un méchant homme et d'un réprouvé. Les apparences sont égales, les mouvements, les sentiments, les actions en sont les mêmes, et il n'y a que Dieu qui connaisse alors son élection et qui voit ce petit grain de foi qui reste encore dans son cœur. Voyez, je vous prie, David, lorsqu'il eut enveloppé sa conscience d'un adultère et d'un meurtre, quelle différence mettez-vous entre lui et Saul ? Voyez saint Pierre, lorsqu'il renia son maître dans la cour du souverain sacrificateur, ne diriez-vous pas, en jugé par les apparences, que c'est un traître et un apostat ? De plus, il est certain qu'un homme de bien ne saurait descendre plus bas qu'il le fait alors, car il va jusque sur le bord de l'abîme, et si Dieu ne le retenait et ne le relevait par la vertu de son élection, il ne serait pas possible qu'il demeurât longtemps sans périr. J'avoue qu'il ne périt pas, car comme un réprouvé marche quelquefois dans le chemin du salut si avant qu'il va jusqu'à la porte des cieux, et par manière de dire, et il y met la tête, et y voit les puissances du siècle à venir, comme dit saint Paul, mais il n'y entre pas, parce que le propos arrêté n'anime pas sa vocation. De même, un élu marche quelquefois dans le chemin de la damnation jusqu'à aller sur la porte de l'enfer, et à y voir l'horreur de la malédiction divine, mais il n'y tombe pas, parce que sa vocation est fondée sur le conseil de Dieu, qui demeure ferme et qui le retire du précipice. Mais cela n'empêche pas qu'on ne puisse dire qu'il ne saurait demeurer longtemps en cet état sans périr, car il en est de lui comme d'un corps évanoui. La mort en occupe déjà la plus grande partie, les yeux ne voient plus, la bouche ne respire plus, les artères ne battent plus, les mains et les pieds n'ont plus de mouvement, et il n'y a plus qu'un filet de vie au cœur. Et si la nature ne revient bientôt et ne regagne le dessus, c'en est fait. Ce corps est perdu. Si de même il se pouvait faire qu'un homme qui a contristé le Saint-Esprit demeura longtemps sans revenir de ce malheur, il est certain que sa régénération périrait, et ce filet de foi qui reste encore dans le fond de son âme ne saurait tenir longtemps contre une si rude attaque. En troisième lieu, je ne veux que vous mettre devant les yeux le plus déplorable état d'une conscience en qui le Saint-Esprit interrompt ses consolations ordinaires. Elle n'entend plus la voix de Dieu qui lui disait « Je suis ton salut ». Elle ne voit plus ce visage doux et paternel qui lui était si familier autrefois. Elle ne jouit plus du sentiment de la rémission de ses péchés. Elle ne voit plus le paradis ouvert. Elle n'a plus cet accès libre au trône de la grâce pour y trouver aide et miséricorde en temps opportun. Et comme elle a connu autrefois le prix de ses biens, le regret de les avoir perdus est plus cuisant que n'est la douleur de ceux qui ne les ont jamais possédés. Je ne vous dirai point que Dieu retire d'ordinaire ses enfants de ces mauvais endroits par de sanglantes afflictions. Je compte cela pour rien. Un homme est encore trop heureux que Dieu veuille déployer la rigueur de ses châtiments pour le ramener à son service. Je vous dirai seulement qu'il ne se peut rien concevoir de plus pénible ni de plus âpre que les douleurs de sa repentance quand il retourne à Dieu. Lisez le psaume 51 et vous en verrez une image dans la pénitence de David. Que se peut-il dire de plus triste par ces paroles ? Mon péché est continuellement devant moi. Ne me rejette point de devant ta face et ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la liesse de ton salut et que l'esprit libre me soutienne. Il ne parle que de cœur brisé et d'esprit froissé, et ses termes portent partout les marques d'une dernière angoisse. En effet, Il n'est pas possible de revenir de si loin sans faire un effort de vertu tout extraordinaire. Et comme il n'est pas possible d'être tombé dans cet état sans que le vice ait fait des efforts diaboliques, il n'est pas possible aussi d'en remonter sans que la vertu fasse des efforts héroïques et divins. Mais dans ces derniers efforts, qu'il en coûte cher à la nature, que de larmes versent les yeux, que de sanglots et de gémissements poussent le sein, que de voix entrecoupées sortent de la bouche, combien de fois le cœur se déchire-t-il lui-même, combien de fois le corps tombe-t-il par terre, et combien de fois les yeux se lèvent-ils vers le ciel. Ajoutez enfin à cela les difficultés qu'il y a à faire revenir cet esprit qui a été une fois contristé pour réparer les brèches que le crime a faites. Car il est vrai qu'après cela, les désordres d'un cœur durent bien longtemps, et qu'il faut un grand et long travail pour les faire cesser, comme quand un ruisseau bourbeux a inondé les campagnes voisines, encore qu'il revienne dans son canal ordinaire, ces campagnes demeurent néanmoins toutes couvertes de son limon et présentent aux yeux une triste image. De même, lorsque les passions humaines se sont débordées et que s'étant enflées excessivement, elles ont passé leurs bornes ordinaires, alors que l'homme revient dans son sang-froid, il est vrai, pourtant que toutes les puissances de son âme demeurent corrompues et qu'il faut beaucoup de temps pour les rétablir. Prenons donc garde, mes frères, de ne contrister jamais ce Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Et pour cet effet, ne nous fions jamais à nous-mêmes. Quelque belle que soit notre régénération, nous avons toujours les ennemis de notre salut dans notre sein. Notre convoitise est un lion enchaîné qui s'humilie quelquefois sous la grâce, mais qui s'irritera contre elle à la première occasion, jusqu'à la déchirer si nous n'y prenons bien garde. Lisons l'Écriture sainte. Fréquentons les exercices de la piété et ne soyons jamais las de nous avancer en la connaissance des mystères du ciel. Repoussons avec zèle et avec indignation toutes les défiances qui pourraient s'élever contre la certitude de l'Évangile. Envisageons d'un œil ferme toutes les afflictions qu'il faut souffrir pour la querelle du Seigneur Jésus. Si la nature se plaint, arrêtons ses plaintes en lui opposant notre vocation. Si la chair murmure, imposons-lui silence, en lui montrant l'honneur que nous avons de souffrir pour une si grande cause. Que rien ne soit capable de nous ébranler, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hommes, ni l'abaissement, ni l'élévation, ni la crainte, ni l'espérance, ni l'amour de nous-mêmes, ni l'amour de nos enfants plus tendre que celui de nous-mêmes. Gardons la foi, combattons le bon combat, ne perdons pas au milieu de notre carrière le prix qui nous est proposé. Pratiquons les œuvres de la sanctification. Vivons en ce siècle sobrement, justement et religieusement, en attendant la bienheureuse journée et la glorieuse apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous que nous avons été scellés pour ce grand jour de notre rédemption. Jouissons de l'honneur de ce sceau, jusqu'à ce qu'enfin Dieu nous fasse jouir de la promesse qu'il nous confirme. Ne craignons point la mort, puisqu'après ces ténèbres vient une si belle lumière, et après sa nuit un si beau jour. Que ce monstre nous engloutisse quand il plaira au Seigneur, nous sommes assurés qu'il sera contraint de nous mettre sur le rivage et que toutes ses forces céderont à celles de notre libérateur. Il viendra des cieux chercher ici-bas notre chair qu'il a rachetée, et après l'avoir relevée du tombeau, il l'élèvera dans le séjour de l'Esprit. Car alors, l'Esprit ne viendra plus en terre pour s'associer avec les infirmités de la chair, mais la chair suivra l'Esprit dans le paradis éternel, et ses bassesses se perdront heureusement dans la gloire de cet Esprit qui sera lui-même à jamais, non le sceau de notre rédemption, mais le fond même de notre félicité. À lui comme au Père et au Fils, soit honneur et gloire éternellement. Amen.